On parle de l'Allemagne ce matin dans le grand entretien. L'Allemagne a quelques jours, ce sera dimanche, des élections fédérales. Vos questions, amis auditeurs, à nos trois invités au 01 45 24 7000. Ici, à Paris, en studio, Marion van Rentergem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur d'une biographie d'Angela Merkel intitulée « C'était Merkel » aux éditions Les Arènes. Le 3 octobre prochain, France 5 diffusera votre documentaire « Recherche Merkel désespérément ». On dira un mot tout à l'heure. À Francfort, en duplex avec nous, Daniel Cohn-Bendit, bonjour.
Bonjour.
Ancien président du groupe écologiste au Parlement européen et en duplex de la ville d'Hambourg, Hélène Miard-Delacroix. Bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Historienne et professeure à Sorbonne Université. On va évidemment, dans quelques instants, évoquer la figure, le bilan, peut-être l'héritage d'Angela Merkel. Elle quitte le pouvoir, je le rappelle, au terme de son quatrième mandat, après 16 ans au poste de chancelière. Mais d'abord, parlons de cette campagne électorale étonnante, parcourue par de profonds mouvements d'opinion. Les conservateurs CDU, CSU, d'Armin Laschet ont amorcé la course largement en tête avant que leur avance ne soit divisée par deux. Au printemps, c'est aux Verts, emmenés par Annalena Baerbock, qu'on promettait la victoire avant une forte chute dans l'opinion. Et aujourd'hui, c'est le SPD d'Olaf Scholz qui domine, alors qu'on disait le parti moribond. Hélène Miard-Delacroix, comment expliquer ces mouvements d'opinion? Le jeu est-il encore aujourd'hui totalement ouvert?
Alors le jeu est aujourd'hui encore tout à fait ouvert parce qu'il y a eu ces mouvements d'opinion liés à des déceptions successives, des mauvaises performances des deux favoris que vous avez évoqués. D'abord, tout le monde a pensé que le nouveau chef de la CDU était parfaitement dans la continuité d'Angela Merkel et que c'était d'une certaine façon plié. Puis on s'est enthousiasmé pour l'alternative, donc cette jeune verte, Annalena Baerbock de 40 ans, mais qui a commis des erreurs, un plagiat dans un livre, elle a truqué son CV, et finalement on a trouvé qu'elle n'avait pas d'expérience. Et puis le successeur désigné de Angela Merkel, Armin Laschet, s'est très mal comporté lors des inondations qui ont touché l'ouest de l'Allemagne. On l'a vu hilar dans l'arrière-plan d'une cérémonie en mémoire des victimes. Et donc, il y a eu ce basculement. Il a été présenté comme n'ayant pas la carrure d'un chancelier. Et c'est ainsi que le Olaf Scholz, le candidat du SPD, qu'on disait moribond, et qui s'est déclaré il y a déjà un an, est apparu comme finalement à la fois rassurant, assez dans la continuité d'Angela Merkel puisqu'il gouverne avec elle dans le gouvernement de grande coalition depuis 4 ans et qui a, dans les débats télévisés qui ont été l'essentiel de la campagne électorale, été calme, raisonnable et fait bonne figure.
Daniel Cohn-Bendit, un sondage indique que 87% des Allemands ont la ferme intention d'aller voter mais que 40% d'entre eux ne savent pas encore pour qui. Alors c'est la grande et la belle incertitude de la démocratie, mais voyez-vous tout de même, depuis l'Allemagne, une dynamique en cette fin de campagne? Et si oui, à qui profite-t-elle?
Oui, enfin, c'est évident. Je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. En fait, ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que le programme des partis est, en fait, passe en deuxième position. Ce sont les candidats qui ont décidé de l'évolution. Et c'est vrai, il y a une grande déception aussi bien du côté du candidat des conservateurs, de la CDU-CSU, Laschet, que chez les Verts. Et les Verts français devraient apprendre la leçon. Quand on se trompe de candidat, ils avaient un très bon candidat qui était l'autre chef de parti, Robert Habeck. Ils ont choisi, enfin d'une méthode a été choisie, Annalena Baerbock, qui a déçu, elle n'est pas à la hauteur. Et donc, il y a une chute terrible de 10 points, depuis la nomination d'Annalena Baerbock. Et voilà, donc voilà, ça se joue sur la personnalité. Ce qui est intéressant, et je termine par là, c'est que Scholz ne dit rien, absolument rien. Et c'est ça qu'il est à l'image d'Angela Merkel, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Il ne faut pas dire quelque chose, donc il est rassurant parce qu'il ne dit rien.
Scholz, que le Spiegel a présenté comme l'incarnation de l'ennui en politique, il a été obligé de répondre et d'assurer qu'il riait plus souvent que les gens ne le pensent, Marion van Rentergem. En tout cas, passer après Angela Merkel n'est visiblement pas une sinécure. Vous dites que... Armin Laschet a le même calme et le même manque de charisme que Merkel.
Oui, mais c'est ça qui est... Vous le rappeliez, en général, on est plutôt habitué à s'ennuyer avec les élections allemandes, et là, tout est fou. Et tout est fou, pourquoi ? Parce que y a le mammouth s'en va, Merkel s'en va, donc c'est la fin de 16 années Merkel, et qu'en plus, c'est la première fois qu'un candidat décide de son propre chef de ne pas se représenter. Elle a dit clairement, nein, on l'avait déjà prise à un troisième mandat, elle ne veut pas de quatrième. Et donc, et on arrive aussi à cette situation très paradoxale, qui est qu'elle est si populaire que tout le monde veut lui ressembler. Donc Laschet a cru que c'était lui, naturellement, parce qu'il est le successeur désigné, mais Scholz, le social-démocrate, il se prend pour elle. Donc il fait même le petit signe du losange avec les mains, là, qui est le signe iconique d'Angela Merkel. Et il a fait une campagne électorale très provocatrice et avec pas mal d'humour, d'ailleurs, en disant qu'il était, il pouvait être la Kanzlerin, je peux être chancelière, a-t-il dit. Et Annalena Baerbock, elle, finalement, elle n'était pas contre le fait d'être aussi un peu assimilée à Merkel, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle vient de l'Est, et que les similitudes se faisaient naturellement. Donc c'est tout à fait fou. Et puis, pour la première fois, on va avoir une élection où il y aura possiblement une coalition à trois partis, ce qui sera une première aussi, et qui compliquera les choses.
Hélène Miard de la Croix, sur quel thème ont porté la campagne, les débats entre les prétendants? Daniel Cohn-Bendit disait que Olaf Scholz, pour le SPD, s'ingéniait à ne surtout rien dire. Le correspondant du Monde, Thomas Wider, notait que l'Europe, la politique étrangère, la place de l'Allemagne dans le monde n'avaient pas été abordées au cours de cette campagne. Donc on s'est concentré sur quoi ? Sur des enjeux intérieurs, sur l'écologie ?
Alors, on s'est concentré déjà sur les personnes. Et on s'est concentré sur la façon dont les personnes faisaient campagne. Donc, au lieu de parler des vrais sujets, une grande partie des commentaires a été, en effet, comme l'un apparaît ou comme l'autre, finalement, ne fait pas bonne figure. Alors après, sur les thèmes, en effet, il est tout à fait frappant qu'aucun thème de politique extérieure, et ni même de politique européenne, soit arrivé. Alors, est-ce que c'est l'idée que ça n'intéresserait pas les gens ? Est-ce qu'on anticipe, peut-être à tort, l'idée que ça n'intéresserait pas les électeurs. Alors, les sujets ont été énormément le climat, avec une opposition sur la façon de financer ou de continuer à financer ou de mieux financer, ce qu'on appelle le virage, la Energiewende, le virage. Les uns, disons, alors, les plus conservateurs et les libéraux étant plus pour favoriser des méthodes axées sur le marché, avec des incitations, tandis que les sociaux-démocrates du SPD, d'Olaf Scholz, et les Verts étant plus interventionnistes, si l'on veut, étant soit entre guillemets punitifs, soit jouant sur des hausses d'impôts, notamment sur les salaires les plus élevés, sur les impôts sur les successions, pour financer des investissements communs. Donc plutôt des questions de climat, plutôt des questions de répartition des revenus, hausse du salaire minimum pour la gauche et plus grande taxation des plus riches, pour un peu simplifier les deux fronts.
En France, la pré-campagne, Daniel Cohn-Bendit, la pré-campagne présidentielle est dominée par des questions identitaires, sécuritaires, par les questions d'immigration. Ça n'a manifestement pas été le cas pendant la campagne allemande. Avez-vous été surpris ?
Non, parce que 2015, c'est quand même loin derrière. D'abord, je voudrais dire une chose. Il faut arrêter de dire que les Verts sont punitifs. Réguler l'économie, ce n'est pas être punitif. Il faut arrêter, parce que sinon on ne comprend pas, on peut être contre la proposition des Verts et des écologistes, mais pas parce que c'est punitif, parce que c'est trop régulateur, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, deuxièmement,
sur les questions identitaires.
Sur les questions identitaires, oui, c'est l'immigration 2015, si vous voulez, la grande fulgurance de Merkel, qui n'a pas fermé les frontières. Il faut arrêter. Elle n'a pas ouvert les frontières, elle ne les a pas fermées. Ce qui n'est pas, les frontières étaient ouvertes, elle a refusé de mettre des barbelés autour de l'Allemagne. Mais, en fait, depuis 2015, eh bien, la moitié de ceux qui sont arrivés en 2015, aujourd'hui, ont un travail. Donc, l'intégration des migrants, eh bien, fonctionne cas un cas. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. Et donc, il faut arrêter aussi avec cette crise. Il n'y a que l'extrême droite qui essaye toujours de faire remonter cette crise identitaire sur l'immigration. Évidemment, quand il y a des crimes horribles d'islamo-fascistes, la tension monte un peu. Mais généralement, ce côté-là, c'est pas vraiment un grand débat. D'autant plus que, ça c'est, il faut le souligner, le candidat CDU Laschet a souligné qu'il avait soutenu et qu'il avait soutenu et qu'il avait raison de soutenir Angela Merkel en 2015.
Alors venons-en à Angela Merkel. Même si elle a connu 4 présidents de la République en France et que c'est le visage du couple franco-allemand, elle reste, Marion van Rentergem, assez énigmatique. Qu'est-ce qui, selon vous, explique son exceptionnelle longévité, vous qui la comparez à la reine d'Angleterre?
Je la compare à la reine d'Angleterre, c'est évidemment une provocation, mais parce qu'elle a un mandat exécutif, ce que n'a pas la reine d'Angleterre, mais elles sont toutes les deux devenus des symboles et des incarnations de leur pays. Et c'est d'ailleurs un reproche que l'on fait à Angela Merkel, qui est de n'avoir rien fait finalement, ce qui n'est pas totalement faux. Ça n'est pas une réformatrice, elle a bénéficié des grandes réformes sur la loi du travail de son prédécesseur social-démocrate Gerhard Schröder, les lois Hartz, et finalement tous ces 4 mandats ont été la prolongation de ces réformes qu'elle avait eu l'intelligence de faire voter d'ailleurs quand elle était dans l'opposition, parce qu'elle avait été fine mouche, elle s'était dit ça me servira quand je serai au pouvoir, ce sera fait. Et en effet, elle a accompagné un élan de prospérité allemande tout à fait phénoménal. L'Allemagne était considérée comme l'homme malade de l'Europe au sortir de la réunification au début des années 2000. C'est aujourd'hui la première puissance économique européenne, la 4e mondiale. Mmh. Et ça, c'est Merkel qui a accompagné ce mouvement sans faire grand-chose. Mais surtout, donc, en effet, elle a essentiellement incarné son pays. Elle a ressemblé à ce que les Allemands attendaient d'elle. Et essentiellement, ce que les Allemands aiment le plus, c'est la sacro-sainte stabilité.
Et sous l'apparence lisse, est-elle l'une de ces grands fauve de la politique, parce que rester 16 ans au pouvoir, c'est quand même, ça demande quelques qualités.
Alors il y a quelque chose qu'on néglige chez Angela Merkel, c'est la chance. Elle s'est trouvée à tous les moments de sa vie, au bon endroit et au bon moment. Elle vient, donc d'abord elle avait cette différence absolue, elle vient d'un pays qui n'existe pas, aucun autre dirigeant peut prétendre, et surtout de ce calibre, ne peut prétendre à avoir passé plus de la moitié de sa vie sous une dictature, c'est déjà une différence fondamentale. Et arrivant à la politique totalement par hasard, au moment de la chute du mur, elle a décidé de changer de carrière radicalement du jour au lendemain. Elle était destinée à être chercheuse en chimie quantique. Le mur tombe, un autre monde s'ouvre à elle, totalement différent. Elle rentre en politique et du coup, là, elle bénéficie du fait de elle remplissait tous les quotas, elle toute seule, dans l'Allemagne réunifiée. Helmut Kohl, le chancelier, ex-chancelier d'Allemagne de l'Est, devenu celui de l'Allemagne réunifiée, avait besoin d'une femme. Elle était une femme, il avait besoin de quelqu'un de l'Est. Elle était de l'Est. Elle était en plus protestante, divorcée, sans enfant. Enfin, elle détonnait dans ce paysage et elle a très, très habilement saisi les chances tout au long de sa vie qui lui étaient offertes.
Hélène Niard de la Croix, est-ce qu'il existe un merkelisme au sens d'une idéologie politique ou est-ce simplement le merkelisme une manière de gérer un pays dont l'économie est florissante?
Je dirais plutôt que le merkelisme, c'est une méthode, en effet. Alors, on peut considérer que c'est une idéologie de chercher toujours le compromis, de chercher à rassembler, de prendre son temps, de faire toujours le plus petit du commun dénominateur lorsqu'on a plusieurs membres dans une coalition. Il faut rappeler qu'elle a quand même, pendant ces 16 années, dû gouverner, alors une fois avec le partenaire favori des conservateurs, qui sont les libéraux, mais les 3 autres fois, dans une grande coalition, c'est-à-dire avec elle étant au centre droit, disons, de gérer les affaires avec le centre gauche. Donc si on estime que c'est une idéologie de toujours chercher le compromis, oui, je pense plutôt que c'est une méthode. Il ne faut pas oublier, ça Marion van Rentergem l'a rappelé, c'est une scientifique, c'est-à-dire qu'elle a toujours cherché à identifier quels étaient les possibles, les atouts, et à trouver des solutions pratique. Alors, ça correspond quand même à une époque où l'Allemagne a donné à ses voisins l'impression d'arranger la chèvre, ménager la chèvre et le chou, de chercher à slalomer un peu et de ne jamais s'engager. Alors c'est une question qui va se poser au successeur ou à la successeure qui sera de est-ce que on peut continuer comme ça? Est-ce que la plus grande puissance d'Europe, la 4e puissance mondiale, peut toujours être en retrait de la main, être en retenue et ne pas être être une force de proposition et être un moteur, toujours dans le multilatéralisme, on est d'accord, mais être plus force de proposition. On verra dans 30 ans ce qu'il restera du merkelisme.
Quel bilan faites-vous, Daniel Cohn-Bendit, de l'action européenne d'Angela Merkel, qui est très composite. On pourrait citer beaucoup d'exemples qui peuvent même dire que cet héritage est contradictoire. Vous retenez quoi ?
Je retiens l'attentisme. Merkel déteste décider. Et donc, c'est vrai qu'elle recherche le compromis, mais le plus tard possible. Et dans l'action européenne, si vous voulez, elle a eu deux fulgurances nationales, c'est-à-dire la sortie du nucléaire.
2011.
C'est une réaction à Fukushima. C'est pas penser avant, c'est une réaction. Et puis les migrants en 2015, ce n'est pas penser avant, c'est une réaction à une situation. Et sur l'Europe, elle a été attentiste, elle a suivi son ministre de l'économie qui était pour la sortie de la Grèce de l'euro. Et c'est qu'au dernier moment, quand François Hollande a dit que ça serait une rupture entre la France et l'Allemagne, qu'elle a fait marche arrière au dernier moment. Et sur le plan de relance, pendant la pandémie, au début de la pandémie, eh ben c'est qu'au dernier moment qu'elle a enfin accepté un emprunt commun des Européens, alors que pendant des années, le président Macron lui disait « il faut aller plus loin avec une relance européenne avant la pandémie », et elle disait « oui, je peux pas, c'est difficile, mes partenaires, etc. » Donc, mais ce qu'il faut rappeler aux Français, une chancelière n'est pas un président de la République. Une chancelière est à la tête d'une coalition. Donc ça dépendra pas du prochain chancelier, mais ça dépendra de la prochaine coalition. Quelle politique fera la coalition ? Un chancelier ou une chancelière n'a pas le pouvoir d'un président de la République, et c'est peut-être pas mal.
Quelle coalition entrevoyez-vous, Daniel Cohn-Bendit ?
Moi, je parie sur une coalition sociaux-démocrates, verts et libéraux. Je sais que beaucoup veulent une coalition de gauche, c'est-à-dire verts, sociaux-démocrates, verts et Die Linke, qui est l'équivalent un peu de la France insoumise. Je crois que ça fonctionne pas au point de vue de politique étrangère, etc. Et je crois que avec les libéraux, les sociaux-démocrates et les verts feraient une proposition au centre de la société, car les décisions à prendre sur la transition écologique sont très importantes et très dures, et il faut rassembler aussi au centre de la société.
Sur ce thème, Marion Van Rentergem, juste avant d'aller au Standard d'Inter, à la fois sur l'Europe et ce qui se profile, sur le bilan européen, pardon, d'Angela Merkel et ce qui se profile là dans les semaines et les mois qui viennent.
Oui, pour moi, le merkelisme, c'est surtout que Angela Merkel a inventé le en même temps, avant Emmanuel Macron, à un point, Dani Cohn-Bendit qui intervient dans mon documentaire, d'ailleurs, a un mot encore plus fort, il dit elle a anesthésié, l'Allemagne. Et c'est un peu vrai, elle a poussé le en même temps à un point tel, par un art et une tactique qui lui sont tout à fait propres, et ce qui fait que d'ailleurs, la fin des années Merkel, comme disait Hélène Mire de la Croix, l'Allemagne sera obligée vraiment de s'engager, d'aller vers autre chose, parce qu'elle perdra cette espèce d'artiste du en même temps qui passe son temps à mettre ensemble les contraires, à concilier. Elle a été souvent à la tête de grandes coalitions et donc elle a réussi à dénaturer le parti conservateur, la CDU, en le tirant vers la gauche, tout en dénaturant le parti social-démocrate en le tirant vers le centre. Finalement, elle a annulé un peu tout le monde en faisant du merkelisme, et je pense que c'est ça qui restera, c'est que maintenant, elle rend l'Allemagne en bon état et l'Europe en bon état aussi. Elle rend les clés de la maison, elle s'en est bien occupée.
Bien tenue.
Et malgré tout, tout est à recommencer.
Xavier est au Standard. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à tous. Alors voilà, bon, en fait, il s'agissait de deux remarques. La première remarque, c'est que la campagne électorale en Allemagne se déroule dans le calme, si vous voulez, avec de grands partis, des partis puissants comme le SPD, la CDU-CSU, les Verts, etc. Bon, sur les extrêmes, on a Die Linke et puis l'AfD. Mais malgré tout, cette campagne se déroule, j'ai une admiration, si vous voulez, pour la démocratie allemande. Alors qu'en France, on a véritablement un combat autour des questions identitaires ça paraît complètement fou, si vous voulez, l'opposition entre les deux pays. Et vraiment, je suis, pour ma part, assez consterné de voir, par exemple, qu'en France, on a un Éric Zemmour qui tourne autour de 11%. 5% d'intention de vote. Bien sûr, ce ne sont que des intentions de vote, alors qu'en Allemagne, on a encore de grands et puissants partis qui structurent
la vie politique encore. Merci Xavier pour cette intervention, Hélène Miard de la Croix, à la fois sur le calme et sur la puissance des partis politiques, à la différence de la France, disait notre auditeur. Que lui répondre ?
Je pense qu'en effet, la puissance des partis politiques tient aussi au système institutionnel. Ce qui est évoqué là avec le cas d'Éric Zemmour, c'est la caractéristique de la campagne d'une élection présidentielle où on focalise énormément sur des personnes et où, d'une certaine façon, c'est l'évolution aussi de la Ve République où le poids de la structure du parti a baissé. En Allemagne, on a bien souligné qu'il y avait, c'était nouveau, cette personnalisation dans la campagne électorale. Pour autant, on rappelle toujours, les électeurs dimanche vont voter pour élire des députés qui, au Parlement allemand, au Bundestag, vont ensuite élire un chancelier, une chancelière et un gouvernement qui aura, sur la base de négociations, dont on espère qu'elles ne seront pas trop longues, entre eux, les groupes parlementaires qui vont essayer de se mettre d'accord avec un contrat écrit, ce qui sera le texte sur lequel, après, pendant 4 ans, ce Parlement votera les lois. Donc, je crois que les institutions modifient beaucoup la façon dont on fait la politique. Alors après, c'est la question de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'en France, on a les institutions que l'on a parce qu'on a cette culture politique du conflit et le contraire en Allemagne, ou est-ce qu'on peut prendre le problème autrement ? C'est-à-dire que les structures, les institutions modifient, façonnent la culture politique qui en Allemagne est en effet beaucoup plus apaisée.
Retour au standard. Benjamin, bonjour.
Bonjour. Pourquoi en Allemagne, contrairement à tout le reste de l'Europe, on n'assiste pas à une montée de l'extrême droite ? Parce que même le parti le plus à droite, l'AfD, l'Alternative für Deutschland, est un parti assez droitier, libéral, mais pas d'extrême droite au sens classique. Sa patronne, Alice Weidel, est une lesbienne mariée avec une Somalienne avec qui elle a eu 2 enfants. C'est pas l'extrême droite classique.
Benjamin, merci pour cette question. Daniel Cohn-Bendit, pouvez-vous y répondre ?
Oui, 2 choses. D'abord, je voudrais juste dire avant. Il faut rappeler qu'en Allemagne, il y a la proportionnelle intégrale avec il faut passer la barre des 5%. C'est-à-dire que tous les partis savent, à part avec l'extrême droite, qu'une coalition est toujours possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette haine et ce refus des autres qui existent comme en France, parce qu'on sait qu'après les élections, on va se revoir autour d'une table de négociation. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour comprendre l'Allemagne et une campagne électorale. Sur l'extrême droite, eh bien tout simplement parce que l'AfD a des tendances d'extrême droite très dures, très dures. Symboliquement, c'est vrai ce que disait l'auditeur sur Weidel, mais elle est quand même très 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 réactionnaire, très très réactionnaire d'extrême droite. Mais aujourd'hui, dans le système allemand, l'extrême droite ne propose rien et c'est pour elle n'a pas de candidat qui puisse en fait dynamiser une pensée qui existe dans la population, et c'est pour cela que même s'il y a une tendance, ils resteront allés à 10-12%. La France serait heureuse si l'extrême droite française ne faisait que 10-12 Français.
Allez, il nous reste à peine une minute. Dernière question, à chacun et chacune. Pensez-vous qu'à l'Élysée, il y ait une préférence pour un des candidats, Marion van Rentergem ?
On se garde bien de le dire à l'Élysée, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que Annalena Baerbock, bizarrement, contrairement à ce qu'on peut croire en France, le Parti Vert est le plus macronien de tous les partis allemands. Les Verts sont très très différents des partis écologistes français, et ce sont ceux qui lui ressemble le plus, mais Annalena Baerbock n'aurait pas la préférence. Scholz, il a aidé au plan de relance européen sur ce qui est le côté les cordons de la bourse un peu lâche, il serait aussi assez pratique. Mais à mon avis, c'est Armin Laschet, le conservateur, qui serait le plus adéquat pour l'Élysée, qui serait le moins encombrant, le plus malléable aussi. C'est le plus naturellement franco-allemand. Il est dans un land qui est frontalier de la France. Et je pense il est très, très favorable à une défense européenne, etc. Donc, à mon avis, c'est lui le candidat préféré de l'Élysée, mais je n'ai pas de...
Oui, de boule de cristal, Annie, d'accord. Hélène Miard de la Croix, en un mot, qui, selon vous ?
Alors je vais pour dire autre chose, je pourrais peut-être souligner le fait qu'on peut aussi imaginer qu'à l'Élysée on apprécierait un chancelier Scholz. Ça dépendrait, je crois, comme toujours, de la coalition qui va être formée. C'est-à-dire que si c'est un chancelier Lachette, avec qui? Si c'est un chancelier Lachette, ouais, avec des Verts, alors ouais, Marie-Anne van Rettenguem a raison. Si c'est avec des Verts et de toute façon des libéraux et que ça force la ligne du retour à l'austérité et au cordon de la bouse serrée, non. Donc voilà, une fois de plus, nous, Français, allons observer et attendre qu'une coalition soit formée, comme l'a dit Danny Cohn-Bendit. En effet, ça, il faut qu'on trouve à travailler ensemble entre forces différentes, politiques différentes, et c'est compliqué.
Daniel Cohn-Bendit, faites court pour la première fois de votre vie sur cette question.
L'Élysée préfère une coalition et devrait préférer une coalition des sociodémocrates, des Verts et des libéraux, parce que c'est la coalition qui sera plus à même d'accompagner une transformation de l'Europe.
Merci Daniel Cohn-Bendit d'avoir été avec nous ce matin. Merci Hélène Miard de la Croix en direct de Hambourg. Et un immense merci à Marion van Rentergem, présent dans le studio de France Inter. C'était Merkel aux éditions Les Arènes, le titre de votre dernier livre, et France 5, le documentaire, le 3 octobre prochain, Recherche Merkel désespérément sur France 5. Merci.
France Inter.